Midi 23 minutes pour ce premier segment de l'émission. Je suis rejoint en studio par Laurence Damioul. Bonjour Laurence.
Bon lundi François.
Bon lundi à toi aussi. Écoute, tu t'es intéressé justement pour cette émission au rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des îles qui ont poursuivi leur mise à jour de leur projet scientifique. Et justement, dans ton reportage, tu disais donc qu'il s'est cherché à consolider son volet scientifique. Qu'est-ce que ça signifie?
Ben, c'est que d'un commun accord avec ses membres, en fait, le RPPCI, comme on l'appelle communément, c'est donner vraiment les moyens de ses ambitions, en fait, François, pour mener à terme des projets scientifiques qui, on le rappelle, ont vu le jour au fil des ans. Mais si on parle de quelques petites mesures ou actions qui ont été faites en ce sens-là, ben, transformation d'un bateau en petit navire de recherche, acquisition d'équipements, mise sur pied d'initiatives propres aux îles. Donc, en plus d'avoir formé une équipe de recherche, ben, on est maintenant rendu à l'étape d'aménager un local voué à devenir un atelier laboratoire pour vraiment venir professionnaliser la recherche. Donc aujourd'hui, après vous avoir parlé il y a peu de temps du projet de marquage de homards pour suivre la migration, on s'intéresse encore aux crustacés, mais aussi aux harengs de printemps. Tu veux que je commence avec lequel?
Bien, comme j'ai une petite couleur homard cuit aujourd'hui parce que j'ai pas mis de crème solaire en fin de semaine, je pense que commencer par le homard serait tout à fait approprié.
Bien, parfait François, on va y aller comme ça. Alors, je vais donc vous présenter une actualité du projet d'écloserie de homards que mène le RPPCI depuis quelques années. Rappelons-le, dans le but de rendre à la mer une partie de ce qu'on lui prend. Donc, globalement, l'idée, c'est de produire en milieu contrôlé des dizaines de milliers de larves de homards, plus précisément pour les faire arriver au stade 4 de développement, ce qui nous permet d'aller ensuite les disséminer sur les fonds marins pour renflouer les pouponnières autour de l'archipel. Donc, cette année, l'association désirait passer à la phase de production des larves. Je vous laisse entendre le chargé de projet scientifique au RPPCI, Jean-François Plante.
Fait qu'en gros, cette année, on a loué un espace dans la salle du bassin de Chimérinov. On vise cette année 10 000 stades 4, de 10 000 petits homards. Puis l'année prochaine, on est plus dans un mode de 20-30 000. Puis après, on s'enligne vers au moins 50 000 par année. Là, on l'a acquis, puis c'est toujours dans les camions. Là, fait que c'est pour ça qu'on est un peu en retard sur ce projet-là. Mais c'est des bassins d'élevage, là. Fait que c'est des bassins de 900 litres. Puis qui vont nous permettre de commencer la production. Déjà, là, ce qu'on fait, c'est que, comme on disait, les femelles... Dans le fond, le concept, c'est qu'on récupère des femelles avec des œufs, puis on fait éclore les œufs en milieu contrôlé, qu'on nourrit avec des petites crevettes qui s'appellent les artémies. Puis on amène le homard, ça prend à peu près 2 semaines, on l'amène à un stade 4, qui est le stade qui correspond au premier stade de vie sur le fond marin. Le RPPCI doit juste, on va dire, décider comment ça va fonctionner, mais ça veut dire qu'il y a des pêcheurs qui vont pouvoir récupérer des quantités de homards pour les ensemencer sur des fonds propices. Ce qu'on fait là en ce moment, étant donné qu'on attend encore nos bassins, c'est qu'on récolte des femelles avec les œufs. On a un permis du MPO pour ça. On en prend une cinquantaine à chaque fois. Puis là, on les stocke dans l'eau froide. Fait qu'on les stocke à 4 degrés. Ça gèle le métabolisme, on va dire. Ça stabilise le métabolisme. Donc, ça va nous permettre de déclencher les éclosions quand on va avoir nos bassins.
Le projet d'écloserie, François, comporte aussi un volet expérimental, en fait, qui est le sujet de l'étudiant à la maîtrise en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski, Tristan Racer. Le biologiste s'intéresse, en fait, à la diète des larves, donc à trouver la meilleure recette pour faire croître les bébés homards et, à terme, arriver à aussi fabriquer la nourriture en laboratoire pour vraiment assurer une production de larves à 100% à l'interne. Je vous propose d'écouter les explications de Tristan Racer et, encore une fois, Jean-François Plante.
C'est une continuité un peu des projets qui avaient été faits par le passé au niveau des tests sur différentes diètes qu'on administre aux larves. Traditionnellement, en écloserie partout dans le monde, en Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie, nos larves sont nourries avec des artémies. Ce sont des petites crevettes d'eau salée qu'on fait éclore. Ça nécessite du personnel, ça nécessite des ressources humaines, des installations à produire cette nourriture vivante-là avant de la donner aux jeunes larves. Là, ce qu'on veut continuer à tester, puis qui est le sujet principal de ma thèse de maîtrise, c'est de nourrir les larves avec le ceston, c'est-à-dire la matière organique, le phyto, le zooplancton, tout ce qui est organique dans la colonne d'eau que les larves naturellement vont manger. On teste aussi encore les artémies et on teste le mélange des deux. C'est ces trois principales diètes-là. Par les années passées, on a fait plusieurs tests, puis on s'est rendu compte que le ceston, il est présent, il peut être bénéfique potentiellement, mais il faut le traiter aussi. Le traitement de cette matière organique-là se fait avec toutes sortes de méthodes qu'on veut tester cette année.
On va pomper de l'eau avec tout ce que ça contient. Puis le but, c'est de trier puis de garder ce qui est bon et bénéfique pour les larves d'aumont. Donc, dans le tri, il existe des stérilisateurs qui vont nous permettre de se débarrasser des éléments non désirables.
Oui, mais ça va garder le reste alimentaire qui est plus gros et tout aussi.
Mais est-ce que ça les rendrait pas plus vulnérables une fois qu'on les remet dans leur environnement naturel, si on n'a pas été justement adapté ou mis en amitié avec des éléments non désirables? Est-ce qu'on vient pas...
Oh, la même question.
Doudouner nos larves et en faire le plus possible pour les mettre dans Watt puis avoir les meilleures conditions versus est-ce qu'on veut faire des larves qui sont prêtes à aller affronter Mère Nature? Là, notre objectif cette année, c'est de produire. Puis l'objectif de ma thèse, c'est de voir les différences de ces diètes-là. Qu'est-ce qu'ils ont comme différence, comme incidence sur la croissance, la survie des larves. Fait que c'est toutes des questions, justement, qu'on va pouvoir approfondir.
Au final, nous, on va prendre la méthode qui est connue. En gros, c'est de l'eau filtrée, stérilisée. Fait que l'eau est dépourvue de tout. Puis on fait juste mettre les crevettes qu'on connaît. Au final, c'est une diète dans un milieu ouaté.
On fait de la culture en laboratoire, en bassin. On concentre notre matière organique. Donc, c'est toutes sortes d'avenues. Puis de tests qu'on va faire, c'est développer potentiellement une écloserie avec laquelle on pourrait nourrir nos larves seulement ou en partie avec ce qu'il y a déjà dans l'eau de mer. Ça va faire en sorte que lorsqu'on va ensemencer, c'est peut-être aussi potentiellement des larves qui vont être plus habituées à manger ce qu'ils ont dans le menu puis le buffet ici autour des îles, qui pourraient être aussi peut-être mieux adaptées à leur milieu, à chasser. En tout cas, toutes sortes de développements, toutes sortes de questions qui vont s'en venir avec ça.
Et est-ce qu'on parle, Laurence, d'un ensemencement dès cette année? Et à quel endroit est-ce qu'on veut le faire? Dans les lagunes, au large des îles? Comment ça va fonctionner?
Dès cette année, François, dès que les larves seront prêtes, le rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des îles ira les disséminer. Ils ont eu l'autorisation de pêcher Océan Canada pour aller ensemencer des fonds marins. Évidemment, c'est pas dans les lagunes qu'on va se concentrer, c'est autour de l'archipel. Mais côté stratégie, on veut y aller intelligemment, entre guillemets, c'est-à-dire aller renflouer des sites où le substrat, donc le sable du fond, est propice aux bébés homards, mais où on constate une densité faible, en fait. Donc, plutôt que d'aller remettre des larves dans des endroits où il y en a déjà beaucoup, bien, on veut cibler des sites, des secteurs qui auraient besoin d'un petit coup de pouce.
Autrement dit, on veut éviter de la compétition avec des larves déjà présentes pour, à la place, les mettre ailleurs où ils pourront continuer de grandir.
Bien, c'est surtout que si les pouponnières sont déjà, bon, très actives, par exemple, on n'ira pas rajouter, par exemple, des larves-là. L'idée, c'est d'aller en mettre là où on en aurait besoin de plus, par exemple. Des pouponnières... Le choix des pouponnières sera discuté avec les membres, tout comme le nombre d'endroits. Il faut quand même garder en tête que 10 000 larves, c'est très, très peu, en fait, François, surtout quand on compare avec d'autres projets semblables qui se déroulent dans les maritimes ou sur la côte atlantique. Bon, il y a des projets qui font entre 250 000 et 1 million de larves amenées à éclosion chaque année. Donc, avec 10 000 larves, on peut pas, on fera pas quatre fois le tour des îles, on s'entend là-dessus, mais on aimerait quand même répartir sur plusieurs sites, surtout qu'on est encore dans la phase, donc, 1, en fait, concrètement, du projet.
On est encore dans une phase assez expérimentale, justement. Et maintenant, si on parle de harengs de printemps, Laurence.
C'est un autre projet, donc, du RPPCI, celui-là qui a démarré cette année. C'est un suivi des sites de frayage, donc de reproduction du hareng dans la lagune de Grande-Entrée et dans la baie de Plaisance. On doit rappeler que le poisson est sous moratoire depuis 2022, mais le ministère de Pêche et Océan Canada continue de donner des contrats de pêche scientifique pour vérifier le rétablissement, l'évolution du stock du sud du Golfe. Les îles étaient absentes, en fait, du programme ministériel de suivi, donc l'association a levé la main pour prendre part au programme. La professionnelle de recherche Stéphanie Arnold détaille, bien, je vous propose en fait de l'entendre un mot à la fois, détailler le déroulement du suivi qui s'est réalisé entre le 25 mars et le 4 mai. Vous entendrez également à nouveau Jean-François Plante.
Encore une fois, on a fait affaire avec des pêcheurs, Alton Dixon puis Marc Eloquin. Puis eux, dans le fond, ils allaient tendre des filets pour nous aider justement à comme confirmer la présence, la période puis les zones de frais. Et à tous les semaines, ils levaient des filets dans les deux secteurs. Puis nous autres, on prenait des différentes données, entre autres de le poids, la longueur. Puis on prenait des échantillons aussi qui vont être envoyés au MPO à Moncton. Pour toutes sortes d'affaires, là, des indices de recrutement, la taille de maturité, l'âge, les structures de taille. Puis ça s'est super bien passé et on a pêché du hareng en tout. 80% de ce qu'on a pêché a été pris à gros cap. Donc, sur un total de, on avait 3125 et 96 livres.
On leur envoie les données au MPO. J'imagine qu'eux, ils vont recevoir les données de toutes les régions. Puis, ils vont faire une analyse, puis on va voir où est-ce qu'on se situe. Puis, l'autre détail, c'est que l'objectif ici, c'était d'identifier la période de frais. Mm-hmm. Fait que ça, vous l'avez identifié.
Il y a aussi le comité CIP qui fait un suivi plus dans les lagunes, puis tout ça. Mais de ce qu'on a pu voir directement avec les échantillons, c'est que ça s'est repassé entre le 22 et le 27 avril cette année. Fait que, tu sais, ça, tu vas voir, justement, il y a le poisson va avoir des œufs qui sont vraiment d'une certaine texture. Tu vas voir on a vu un peu de lait à certains endroits, là, mais des poissons qui plongent. En tout cas, il y a plusieurs signes qui nous ont permis d'identifier la période.
C'est que la lagune de Grande Entrée, historiquement, c'est là que, je ne veux pas dire le pourcentage, mais la majorité du hareng printemps était pêché. Donc, c'est pour ça que ce site-là a été sélectionné. Et dans les derniers qui ont été aussi pêchés, il y avait une crocape. C'est ça. Puis, dans nos recommandations, oui, c'est de maintenir la lagune de la Grande Entrée, mais ce qu'on se rend compte, c'est que malheureusement, c'est très faible, là, ce qu'on pêche là. Donc, un peu la même logique, là, c'est peut-être de rajouter un... Je sais qu'historiquement, il n'y a pas eu beaucoup de pêche au nord des îles, mais avec tous les changements, etc., ça serait peut-être de rajouter peut-être un site ou un pêcheur au nord des îles. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on a suggéré au MPO. Là.
Est-ce qu'il y a d'autres suggestions comme ça qui ont été faites?
Ben, ou peut-être de commencer encore une semaine plus tôt au mois de mars. Parce que là, on l'a commencé et on avait déjà du hareng. Okay. Donc, on ne sait pas combien de temps avant il est arrivé. T'sais.
Et dis-moi, Laurence, d'habitude, ce genre de démarche de prise de données, ça s'étale dans le temps pour pouvoir avoir davantage de précision. Est-ce que ça est donc quelque chose qui va se reproduire?
Bien, c'est dans l'idée du rassemblement, François. Donc, on le sait, un exercice répété, les répétitions, en fait, constituent la base de la recherche scientifique. Donc, l'association, dis-je bien, aimerait reprendre le protocole à l'automne. On a transmis une demande au ministère en ce sens-là, puisque, encore une fois, l'archipel était absent de la liste des sites surveillés par Pêche et Océan Canada pour le hareng d'automne.
Merci beaucoup, Laurence.
À bientôt.